La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier. La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Aujourd'hui, nous recevons pour ce grain de causette sur Fréquence T, Noé Wagner, maître de conférence en droit public à l'université Paris-Est-Créteil, pour son ouvrage « Le droit des bibliothèques », afin d'évoquer un droit dont on a longtemps affirmé qu'il n'existait pas, le droit des bibliothèques, qui a récemment été mis en avant, évidemment, par l'adoption de la loi Robert, dont les professionnels parlent beaucoup, et sur laquelle nous reviendrons, même si, précisons-le, l'ouvrage paru chez Dalloz est légèrement antérieur à la législation portée par la sénatrice Robert et n'évoque donc pas en profondeur cette nouvelle disposition. Cette somme est le fruit d'une recherche collective, originale, menée dans le cadre d'une convention de recherche passée avec le ministère de la Culture. Noé Wagner en est le co-signataire avec quatre de ses collègues juristes, Marie Cornu, directrice de recherche au CNRS, responsable scientifique du projet, Mathilde Rellinger, avocate au barreau de Paris, Émile Terrier, maître de conférence à l'Université de Grenoble, et l'assistance documentaire et technique de Marie Trapp, ingénieure d'études au CNRS. Cet ouvrage décrit et analyse le corpus, en l'occurrence très fragmenté, des textes juridiques relatifs aux bibliothèques, mais s'intéresse avant tout, ce qui ne manquera pas de passionner les professionnels de la lecture publique, aux usages et pratiques administratives des bibliothèques dans leur fonctionnement quotidien. Il s'organise donc en trois grandes parties, l'organisation du service public des bibliothèques, dont s'est particulièrement occupé Noé Wagner, la responsabilité des collections et l'accès aux bibliothèques, ainsi que la jouissance des collections. Bonjour Noé Wagner.
Bonjour.
Tout d'abord, pourquoi vous êtes intéressé à ce droit réputé fantôme des bibliothèques? Pouvez-vous nous en dire plus sur le projet BibliDroit dont vous êtes l'un des artisans? Pouvez-vous nous dire en quoi ce projet de recherche a significativement nourri les dispositions de la loi Robert notamment?
Bon, merci d'abord de votre invitation. Alors c'est comme vous l'avez rappelé dans votre propos introductif, c'est d'abord un travail de commande du service du livre et de la lecture du ministère de la Culture, puisque le directeur de service Nicolas Georges est venu trouver Marie Cornu pour lui suggérer de mener une étude transversale sur le droit des bibliothèques qui saisisse cet objet. C'est vraiment l'intérêt de notre étude. En tout cas, c'était l'objectif qu'il a poursuivi, à la fois de manière à peu près complète, sans s'en tenir au texte, et on va voir que c'est important, c'est-à-dire en prêtant une attention particulière à ce qu'on appelle les pratiques juridiques des bibliothécaires. Et puis aussi, l'historien que vous êtes va être évidemment intéressé par ça, en ayant un intérêt pour les généalogies de ce droit, en particulier au travers d'une plongée en archives. Alors ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup dans la petite équipe de chercheurs que Marie Cornu a réuni autour d'elle, que cette question de la mise en forme juridique des politiques culturelles, et en particulier ce passage au filtre d'un texte légal, et donc son passage devant une scène parlementaire. Et c'est précisément ce qu'on était en train de faire lorsqu'on a engagé cette étude BibliDroit, parce qu'on avait à ce moment-là deux études d'histoire du droit en cours sur deux grandes lois, disons, de politique culturelle, l'une consacrée à l'histoire de la loi de 79 sur les archives, et puis l'autre consacré à l'histoire de la loi de 2002 sur les musées. Donc un des bouquins, celui sur les archives, est paru il y a deux ans, et l'autre est paru il y a quelques semaines, celui sur les musées, et qui sont deux lois que l'on invoque beaucoup, et que l'on invoquait beaucoup du côté des bibliothèques, précisément parce qu'on déplorait de manière assez intuitive qu'il n'y en avait pas l'équivalent de ces deux lois-là sur les bibliothèques et les musées. Et nous, ça nous intéressait en fait, lorsqu'on est venu nous parler de droit des bibliothèques et de la nécessité de faire un point d'une certaine façon sur ce sujet-là, ça nous intéressait de prendre notre questionnement en creux, c'est-à-dire comment est-ce qu'on traite de la même manière le passage au filtre du droit, un objet de politique culturelle aussi central que les bibliothèques, sans précisément qu'on ait de grands textes de scènes parlementaires qui s'en saisissent. Bon, ça disons que c'est l'intérêt spécifique de notre étude, enfin que nous on l'a trouvé en tant que chercheurs. Après, effectivement, vous l'avez rappelé, dans tout ça est venue une loi, la loi du 21 décembre 2021, donc ce qui a donné un peu plus de piquant encore à toute cette affaire, ce questionnement, qu'est-ce que c'est que faire une loi sur un objet de politique culturelle? Alors, quels ont été les rapports, vous avez posé la question, avec avec la loi du 21 décembre 2021, il y a eu des rapports, puisqu'on menait notre recherche au moment où la sénatrice Robert réunissait un ensemble d'acteurs des bibliothèques pour échanger sur l'opportunité et sur le contenu déjà d'un texte de loi, de sorte qu'on a eu l'occasion d'échanger. Et d'ailleurs, l'exposé des motifs de la proposition de loi rappelle le travail mené par le projet Bibidroit, ce qui est d'ailleurs pas très courant pour un projet de recherche, y compris un projet de recherche juridique. Ça, c'est une originalité dont on est assez fier. Donc, il y a eu des liens, et certains des points techniques qu'on a identifiés dans l'étude comme étant particulièrement problématiques appartiennent aux points qui sont réglés ou pour partie réglés par la loi du 21 décembre 2021. Par exemple, tout bête, la cession des collections courantes. On a identifié clairement qu'il y avait une difficulté quant à l'état du droit existant, et le dernier article de la loi vient régler ce problème-là de manière intéressante. L'obligatoriété de la mission des bibliothèques départementales, c'est aussi un autre truc qu'on avait identifié, c'est un point important de notre recherche et qui est résolu, en partie résolu, ça c'est d'autres questions, mais qui est en tout cas traité directement, frontalement, par la loi du 21 décembre 2021. Mais pour le reste, ce sont quand même deux sphères séparées, notre sphère de recherche et la sphère, disons, de construction législative et légistique de ce texte. C'est-à-dire, on n'est intervenu à aucun moment dans la préparation du texte, on ne nous l'a pas demandé et on ne l'a pas demandé, ni directement ni indirectement, c'est-à-dire on n'a pas produit d'amendement non plus à aucun moment dans ce texte, parce que notre travail était différent. On n'était pas dans la même temporalité, l'un a alimenté l'autre, mais l'a alimenté en tant que travail de recherche qui a ensuite entraîné par des acteurs différents la production d'un texte juridique qui est la loi du 21 décembre 2021.
En traitant des pratiques de la bibliothèque en tant qu'objet juridique, vous évoquez dans la première partie sur l'organisation du service public des bibliothèques le principal discours pratique et concret que l'État porte directement ou indirectement sur les bibliothèques, je vous cite. Pourquoi ce discours est-il si peu intelligible malgré le statut symbolique si important de la bibliothèque au sein du contrat social républicain ?
Bon, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir exprimer une politique publique, et en plus une politique aussi importante que celle des bibliothèques, sous la forme d'une loi qui va servir à la fois de point d'appui pour les bibliothécaires, pour l'administration des bibliothèques, enfin à plein d'acteurs en fait, et puis qui va être aussi un moment, vous l'avez dit aussi, symbolique de restitution, quasiment de la reconnaissance nationale à l'égard d'un secteur de politique publique. Mais en fait, c'est l'approche très caricaturale de penser qu'il faut une politique publique pour qu'elle soit pleine et entière, qu'elle se traduise dans un texte légal, tout simplement parce que déjà le discours de l'État, au concret, en matière de bibliothèque, vous êtes bien placé pour le savoir, s'exprime de mille autres manières possibles, au travers par exemple du statut des agents. La question, ça c'est un truc qu'on essaie de traiter aussi, même si on aurait pu le traiter davantage dans l'ouvrage, la question du statut des agents, c'est un gros sujet, au travers des régimes de propriété, au travers des financements, au travers d'outils contractuels. Il y a plein de façons en fait de mener une politique publique, et au fond, la loi n'est qu'un instrument parmi d'autres. C'est plutôt que le droit est un instrument au concret, est un instrument au concret d'une politique d'État dans son plein et dans ses creux, c'est-à-dire dans le fait aussi de ne pas intervenir et de laisser les acteurs agir. Donc, dans tous les cas, nous, ce qui nous a intéressé, en réalité, c'est justement ces creux. Comme j'essaie de vous le dire, c'est ce qui, depuis le début, dans l'étude du secteur du droit des bibliothèques, nous a beaucoup intéressé. C'est pas tant, en fait, le discours juridique de l'État en matière de bibliothèque, même si on le traite beaucoup, mais ce qu'on a essayé de saisir, et on est sans doute pas aller jusqu'au bout, et on voit vraiment ce livre comme une première étape. Ce qu'on a essayé de saisir, c'est aussi de le prendre complètement à contre-pied, d'aller chercher les pratiques juridiques des bibliothécaires. C'est-à-dire cette idée que le vrai discours au concret, c'est d'observer les pratiques juridiques, parce que les bibliothécaires passent leur temps à faire du droit, passent leur temps à agir dans un cadre juridique, passent leur temps aussi à se dépatouiller avec un cadre juridique, très au-delà de ce que pourrait faire une loi, quelle qu'elle soit, et de ce que fait la loi aujourd'hui. Et c'est ça qu'on a essayé de voir, c'est comment est-ce que déjà, plutôt qu'en partant des énoncés juridiques, en partant des pratiques, quelles sont les grandes questions que se posent les bibliothécaires. Alors en fait, cette tâche-là, elle est très belle à identifier, elle est très intéressante pour nous, comment est-ce qu'on a du droit qui se produit comme ça depuis le terrain. Alors, en fait, c'est une tâche vertigineuse, de sorte qu'en fait, notre livre, comme je vous disais, n'est pas complètement allé au bout de cette démarche-là. C'est un peu un entre-deux entre la démarche classique qui consiste à dire « regardons les textes, comment ils sont appliqués », et puis « regardons les pratiques et qu'est-ce qu'ils font les bibliothécaires », parce qu'évidemment, dans toutes leurs actions, ils font du droit. Et donc, il y a cette ambiguïté volontaire, si j'ose dire, qui fait que, en fait, il faudrait bien plus qu'un livre pour arriver à cerner complètement ce problème-là.
Oui, c'est d'ailleurs ça qui est passionnant dans votre ouvrage, c'est la façon dont vous montrez, y compris que les bibliothécaires n'ont de cesse finalement que d'évoquer des questions qui sont fondamentalement juridiques, sans le faire franchement. C'est assez intéressant, puisque finalement, votre ouvrage vient aussi remplir vraiment une lacune qui était assez béante jusqu'alors dans la littérature professionnelle aussi des bibliothécaires, sans doute des juristes également, vous le démontrez. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment d'ouvrage sur ce droit bâti essentiellement sur les usages, comme vous venez de le dire. Vous pointez concomitamment deux phénomènes. Voilà, un intérêt de la littérature professionnelle, bibliothéconomique, pour ces questions juridiques, et une quasi-autarcie de cette analyse par les bibliothécaires. Un penchant à penser ces aspects à l'écart des juristes, comme si finalement il n'était pas possible de dialoguer. Il y avait presque un dialogue qui était jusqu'alors impossible entre les bibliothécaires et les juristes. D'ailleurs, je pense que c'est pas étonnant, dans le sens où on trouve notamment dans la sociologie les formations initiales des conservateurs fort peu de juristes, ce qui est sans doute dommage. Comment expliquez-vous ce paradoxe finalement ?
En tout cas, je note que vous avez lu attentivement l'ouvrage, puisque vous reprenez quelques-uns des keywords comme autarcie. C'est tout à fait ça. Alors, comment on explique ça, moi? Je dirais que la faute est partagée, même qu'elle revient peut-être d'abord et avant tout aux juristes, qui finalement s'intéressent peu aux droits pris dans des institutions concrètes. Ici, un objet factuel qui est la bibliothèque, alors qui en réalité, on essaie de le montrer, est en vrai chargé de droit, il est constitué juridiquement depuis l'origine, mais c'est vrai que les juristes ont peu cette tendance à partir de l'objet factuel, mais à partir de texte. Et là, en l'occurrence, puisqu'il n'y a pas de texte, évidemment, on rebascule immédiatement sur l'objet factuel. Et puis lorsqu'ils le font, ils s'en tiennent souvent, ce qui est ce qu'on a fait aussi. Ils s'en tiennent souvent à une simple posture d'expert, c'est-à-dire vraiment de l'ingénierie juridique. Expliquer, un peu comme on lit une notice de machine à laver, vous voyez, expliquer ce qu'il faut faire et pas faire. On l'a fait, ça fait partie de l'exercice et ça nous intéresse justement de voir comment concrètement les choses s'imbriquent sur le plan juridique, mais on a essayé de ne pas faire que cela, vous l'avez noté dans le livre, on essaye de remettre en perspective, on essaye de dessiner des paradigmes qui ont évolué dans le temps et voilà, donc ça c'est une démarche qui aussi nous du côté des juristes prétend être assez originale de ce point de vue. Alors, une autre explication, pas seulement le fait que les juristes, au fond, se sont peu intéressés. Si, il y a bien sûr l'ouvrage majeur séminal d'Henri Comte, par exemple, dans les années 70 sur la question, mais c'est vrai que les juristes l'ont peu saisi. Une autre explication vient effectivement, c'est pour ça que je disais que la faute est partagée, vient du côté des bibliothécaires. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très fortement, par exemple, du côté des archives. C'est-à-dire ce sont des milieux à très forte identité professionnelle qui ont, d'une certaine façon, un réflexe qui à la fois a ses avantages et ses inconvénients, à internaliser l'analyse juridique, ses avantages parce que il y a un accès à l'information qui est supérieur à tout ce que pourraient faire les juristes, tout simplement parce qu'il y a la réalité du terrain que vous connaissez évidemment mieux que nous. Et puis ses inconvénients, c'est que c'est une posture très praticienne en fait de l'application des règles juridiques, si bien que les concepts, nous ce qu'on appelle souvent la grammaire juridique, c'est-à-dire les concepts que vous mobilisez en pratique, ne sont pas toujours interrogés avec la réflexivité nécessaire. Et donc voilà, donc c'est à nouveau cette espèce d'entre-deux qui est vraiment intéressant et qui, j'espère, c'est pas un appel un peu grossier du pied, mais qui, j'espère, permettra à l'avenir de travailler tous ensemble pour venir alimenter des tas d'études un peu du type de celles qu'on a pu faire.
À la lecture de votre ouvrage, il semble bien qu'en matière de bibliothèque, l'État se soit plutôt positionné en instance de régulation ou de stratégie, spécialement ces derniers temps. Cette réalité vous semble-t-elle à mettre en parallèle de la progressive montée en autonomie des collectivités territoriales, puis des universités d'ailleurs, où on trouve également bien sûr les bibliothèques, les SCD, au régime de contractualisation de l'État avec les collectivités territoriales? Est-ce que c'est de ça dont on parle finalement?
Alors, je répondrai aux deux temps de votre question successivement. Alors, cette posture de l'État stratège et régulateur, effectivement, c'est un point important d'observer qu'on n'a jamais vraiment eu en matière de bibliothèque une réflexion telle qu'on peut la voir se déployer dans d'autres politiques culturelles, c'est-à-dire ce qu'on appelle, nous, techniquement, une réflexion en termes de police administrative spéciale, c'est-à-dire une succession de mécanismes d'autorisation, d'interdiction, de permission, tout ça placé sous le contrôle d'une autorité administrative. Non pas qu'il y ait aucun contrôle, évidemment, en matière de bibliothèque, mais on ne s'est jamais pleinement engagé dans cette voie. C'est-à-dire, on ne s'est jamais historiquement pleinement engagé dans cette voie. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose qui naît seulement d'une prise d'autonomie des différents acteurs et d'une fragmentation, disons, de la structure générale du système. Ce n'est pas une voie qui a emprunté historiquement. Même la loi du 20 juillet 1931, votre grande loi s'agissant des bibliothèques municipales, celle qui introduit le classement, etc., n'est pas dans une logique vraiment de police administrative spéciale, c'est plutôt une logique d'organisation d'un service public avec une répartition des tâches. Ce qui n'est pas la même chose qu'une logique telle qu'on peut l'avoir, par exemple, dans la loi de 1913 sur les monuments historiques, où on est, au contraire, vraiment dans une succession de régimes d'autorisation, déclaration, etc. Et cette ambiguïté-là, elle se voit encore de plein de manières dans le droit des bibliothèques. Par exemple, dans une figure aussi complexe qu'on a eu du mal, nous, à saisir, et qui pourtant est cruciale en matière de bibliothèque, c'est la figure du contrôle scientifique et technique, qui est à la fois une figure d'organisation générale d'un service public, avec des acteurs qui contrôlent, d'autres qui sont contrôlés, et en même temps qui n'a pas les textes juridiques au soutien de cette ambition-là. On n'est pas du tout dans une logique de police administrative. Bon, on voyait bien, et vraiment c'est ça qui nous a beaucoup plu dans tout ce droit des bibliothèques, on voyait bien toutes ces ambiguïtés d'un droit qui est là sans être là, qui est plein tout en étant en creux. Enfin bon, voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on a essayé de travailler. Alors, ceci étant dit, et là c'est la deuxième partie de votre question, est-ce que la transformation du rôle de l'État, donc pour reprendre là aussi ces keywords, État régulateur, État stratège, c'est la conséquence de la consécration pleine et entière des principes de libre administration des collectivités territoriales ou de l'autonomisation des universités? Ouais, je crois quand même qu'on peut plutôt dire que c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est la transformation des fonctions de l'État qui a provoqué, entre autres choses, le déploiement et la montée en puissance des acteurs, tout simplement parce qu'on a organisé ce déploiement et cette montée en puissance des acteurs. C'est-à-dire que c'est la transformation de la fonction et du rôle de l'État qui est la cause et non pas la conséquence du fait que les collectivités territoriales montent en puissance et les universités s'autonomisent. Et de ce point de vue, c'est très intéressant justement que, je suis peut-être un peu long là, mais c'est très intéressant justement que le droit des bibliothèques ait cette histoire longue de l'organisation de relations complexes entre l'État et les acteurs des bibliothèques sur le terrain, qui ne se réduit pas simplement à une réaction à des processus plus contemporains de décentralisation ou d'autonomisation des universités. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a une histoire longue sur laquelle vont se greffer des préoccupations plus contemporaines, mais qui, en fait, révèlent au contraire, depuis toujours, des relations subtiles, non pas ambiguës, non pas complexes, mais subtiles entre plein d'acteurs qui mènent une politique publique ensemble.
Alors, ce qui est frappant aussi à la lecture de l'ouvrage, c'est de constater que la profession de bibliothécaire s'accommode souvent d'interprétations, vous l'avez évoqué tout à l'heure, hein, de consensus fondés sur des fondements juridiques vagues ou lacunaires, hein, selon vos propres termes, avec pour conséquence une certaine fragilité des pratiques. Hein, tout ça est quand même lourd de sens. Pourquoi l'État a-t-il finalement si longtemps renoncé à une grande loi cadre sur les bibliothèques ? Attendu que la loi Robert, nous y reviendrons, ne vient clairement pas arbitrer toutes ces tensions, mais plutôt rappeler les grands principes du service public des bibliothèques. Est-ce que vous avez une idée? Parce que je sais que, évidemment, et c'est presque logique en tant que publiciste, vous vous intéressez forcément à l'histoire. Qu'est-ce que vous auriez comme explication au fait qu'on est attendu si longtemps? Parce que c'était vraiment pas longtemps été, comme on dit, dans le sud de l'Arlésienne, hein, cette loi sur les bibliothèques.
Votre question est provocante d'une certaine façon. Qu'est-ce qui fait que l'État n'a pas agi? Alors qu'il y avait des problèmes, hein, si je tire un peu les cheveux de votre question, c'est quand même à ça qu'elle revient au bout du compte. À mon avis, il faut largement relativiser l'interrogation en ces termes. Déjà parce que, au fond, l'émergence d'une préoccupation d'une loi sur les bibliothèques, telle qu'on la ressent aujourd'hui, est beaucoup plus récente qu'on ne le dit. On a des projets de loi sur les bibliothèques au début du XXe siècle, au milieu du XXe siècle, dans les années 70. On en a tout le temps des réflexions sur les lois sur une bibliothèque, mais c'est pas du tout des réflexions dans les termes de ceux qu'on a retenus à partir des années 80. C'est-à-dire la réflexion contemporaine n'a rien à voir avec, par exemple, les projets des années 30, où on était vraiment dans une logique d'organisation générale d'un service public et des lois qui n'avaient qu'un contenu, disons, vraiment d'organisation. Il n'y avait pas cette logique de venir consacrer des droits, consacrer des obligations, etc. Donc, il faut nuancer, pour le dire de manière un peu plus concrète, il faut nuancer considérablement cette idée d'arlésienne. C'est pas la même chose qu'on a revendiqué tout le temps. Ça, c'est la première chose. Donc, il y a un mythe, presque une légende noire, j'avais dit il y a quelques années dans le congrès de l'ABF, il y a une légende noire de la loi des bibliothèques, hein, qu'il faut nuancer. On aime bien dire que, au fond, ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, faire une loi, c'est le résultat d'un combat centenaire. Mais ça, c'est, on a montré la même chose lorsqu'on a travaillé sur la loi de 1913 sur les monuments historiques. C'est un grand mythe de penser que pendant 100 ans, on a voulu faire une loi sur les monuments historiques et qu'enfin, quelques types géniaux y sont parvenus. Bon, bah, c'est un peu la même chose, mutatis mutandis, s'agissant des bibliothèques. Bon, la préoccupation d'une loi sur les bibliothèques, même dans les années 80, elle n'est pas du tout formulée dans les mêmes termes qu'on la formule aujourd'hui. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on a toujours eu conscience que de toute façon, la loi n'est pas la solution pleine, entière et parfaite à tous les problèmes des bibliothèques et des bibliothécaires, et qu'au contraire, la plupart des problèmes peuvent être résolus sans intervention législative. C'est-à-dire qu'une loi est un outil. Alors certes, il y a sa symbolique qui est derrière, il y a sa discussion par la représentation nationale, tout ça, mais une loi est un outil technique parmi mille autres. Et ça, au fond, on en avait très fortement conscience dans les années 30, dans les années 50, etc. Si bien que, on avait conscience qu'on pouvait réformer en profondeur le secteur des bibliothèques, ce qu'on fait au sortir de la Seconde Guerre mondiale, sans avoir besoin à aucun moment d'en passer par une loi. Parce que ce n'est qu'un outil, parmi d'autres. Après, la question aussi qui est derrière, qui est une question récurrente, c'est, mais au fond, qu'est-ce que les bibliothécaires veulent avec une loi? C'est une question d'ailleurs qui n'est pas complètement fermée, puisque la loi du 21 décembre 2021, c'est une loi sur les bibliothèques territoriales, c'est-à-dire pas sur les bibliothèques en général, même si son appellation est large et qu'elle entend embrasser de façon générale la question des bibliothèques, c'est pas une loi sur les bibliothèques, c'est une loi sur les bibliothèques territoriales, et encore sur certains des problèmes des bibliothèques territoriales. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas très bien qu'elles soient intervenues, mais ça reste un texte ponctuel, hein, d'une certaine façon, peut-être un peu plus large que la loi de 31, mais finalement pas follement plus large que la loi de 31. Donc tous les problèmes ne sont pas destinés à être réglés par une loi, et par ailleurs, je suis pas sûr, si on s'amusait à interroger la profession, je suis pas sûr qu'il y aurait un accord général sur ce qui devrait être le contenu d'une grande loi sur les bibliothèques transversale, une loi code, vous voyez, qui traite et épuise la question de l'encadrement législatif des bibliothèques. Le dernier élément de réponse, excusez-moi, tout ça est très fragmenté, c'est que, au fond, par les multiples outils d'intervention publique qui existent, dont la loi, eh bien, un certain nombre de problèmes ont été résolus. D'ailleurs, c'est intéressant d'observer. Faites une comparaison avec la charte des bibliothèques du début des années 90 et ce qui aujourd'hui est le droit des bibliothèques, et vous verrez quand même que une bonne part de ce qu'on avait injecté dans la charte des bibliothèques est aujourd'hui de droit positif, c'est-à-dire a été intégré dans le droit par des outils plus ou moins différents, mais néanmoins a été intégré dans le droit. Ceci étant dit, je pense que ça, c'est un vrai exercice intéressant qu'il faudrait mener avec la profession. Ceci étant dit, dans la comparaison entre la charte des bibliothèques et, par exemple, la loi de 2021, il y a aussi des creux très intéressants, c'est-à-dire des choses qu'on a décidé de ne plus aborder. On pourra en rediscuter, peut-être que vous aurez une question sur ce sujet, mais ce qui manque dans la loi de 2021, parce qu'on n'a pas voulu le traiter, mais qu'on traitait dans la charte des bibliothèques, est aussi riche de signification de la manière dont on veut régler le problème des bibliothèques.
Et c'est très intéressant que vous évoquiez ces points, parce que je suis pas sûr, effectivement, moi, comme vous, qui est sur le papier, il est censé avoir chez les professionnels un consensus, mais je suspecte qu'il soit un peu grégaire. Je pense qu'il y a des gens qui pensaient aussi que une des grandes beautés des bibliothèques, c'est que précisément, à contrario de nos collègues des archives et des musées, il n'y avait pas de loi, justement, et ça donnait une certaine plasticité aussi. C'est vrai que ce consensus est pas nécessairement clair. Je l'évoquais tout à l'heure, les bibliothèques publiques sont des instances historiquement liées à l'idée même de contrat social républicain. Je renvoie au discours des révolutionnaires français, notamment Condorcet, hein, pour ne citer que lui. Existe-t-il un droit aux bibliothèques dont les citoyens seraient les bénéficiaires aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire ça?
Ouais, alors ça c'est une question aussi qui est difficile. Bon, contrat social républicain, c'est lourd, hein, ça met beaucoup de pression sur les
épaules. Moi,
je sais pas bien forcément ce que c'est, mais avec mon point de vue de juriste un peu borné, est-ce qu'on va consacrer un droit aux bibliothèques? Je prends juste ce petit bout là de la question. Est-ce qu'il serait intéressant d'aller consacrer un droit aux bibliothèques? En soi, consacrer un droit aux bibliothèques pour un droit aux bibliothèques, ça n'a pas forcément beaucoup de sens en soi, parce que là, le niveau de généralité, le concept de droit aux bibliothèques, c'est un concept qui est trop large, c'est un niveau de généralité qui est trop élevé. L'idée qui est derrière, c'est de davantage travailler concrètement sur effectivement des prérogatives juridiquement sanctionnées qu'on reconnaîtrait aux usagers, en particulier du service public bibliothécaire. Et ça, c'est vrai que c'est d'abord et avant tout l'intérêt de ça, c'est une sorte de décentrement du point de vue, c'est-à-dire on sort complètement de ce qui est encore une fois la trame historique du droit des bibliothèques, c'est-à-dire c'est de l'organisation du service public national par les autorités chargées de cette organisation, les collectivités, l'État, etc. Et de dire, bon, maintenant on se place du point de vue de l'usager et on voit quels sont les droits qu'on concrétise et qu'on satisfait lorsque on organise une réglementation nouvelle sur les bibliothèques. Après, ce droit aux bibliothèques, d'une certaine façon, la loi du 21 décembre 2021 le consacre pour partie. C'est-à-dire que si on se dit il n'y a pas un droit aux bibliothèques parce que c'est un mot slogan, même s'il est très important, s'il est assez immédiat à comprendre, etc., on le concrétise en partie. Je sais pas, par exemple, si vous prenez l'article 2, l'accès libre aux bibliothèques, ça c'est de manière très directe la concrétisation d'un droit aux bibliothèques. C'est-à-dire le fait qu'on ne puisse pas vous empêcher l'accès aux bibliothèques parce qu'il est libre et qu'on ne puisse pas vous facturer l'accès aux bibliothèques. C'est peut-être, ça mange peut-être pas de pain de le faire, même si on avait vu qu'il y a des situations concrètes et des collectivités dans lesquelles ça pouvait poser difficulté cette situation-là. Ça mange peut-être pas de pain de le faire. Et donc c'est quand même néanmoins la reconnaissance d'un bout de droit aux bibliothèques qui est consacré. Alors bien sûr, on pourrait aller plus loin, on pourrait s'amuser à réfléchir à d'autres formes de concrétisation d'un droit aux bibliothèques. Un droit à avoir une place pour les étudiantes et les étudiants, par exemple. Ça, c'est un vrai problème en, en région parisienne, dans certains établissements. Vous pouvez identifier un droit à participer, par exemple, au grand choix d'organisation du service public bibliothécaire. Là, typiquement, on parlait tout à l'heure des creux de la loi du 21 décembre 2021. La question de la participation et de la gouvernance est une question, par exemple, qui n'est pas traitée par cette loi. Et donc, il peut y avoir, en tout cas, c'est comme ça que dans d'autres secteurs de politique culturelle, on a reconnu un droit à quelque chose. C'est entre autres un droit à la participation dans les processus de prise de décision concernant l'organisation générale de ces services. Et ça, c'est pas une voie pour l'instant qu'on a du tout empruntée en matière de bibliothèque. Donc ce que je veux dire vraiment, c'est droit aux bibliothèques, c'est bien, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on y met concrètement? Et là, c'est sûr qu'il y a plein de pistes qu'on peut mobiliser. Après, si vous subjectivisez, c'est-à-dire si vous reconnaissez les droits subjectifs dans ce domaine, vous créez aussi des créneaux à revendication, c'est-à-dire que si jamais le droit à quelque chose qui relève d'une catégorie plus générale de droit à bibliothèque n'est pas respecté, alors il y a possibilité d'un contentieux, etc. Évidemment, vous ouvrez aussi une boîte de Pandore parce que vous juridicisez et en même temps vous judiciarisez, c'est-à-dire vous créez de la source à contentieux, ce qui n'est pas forcément, alors moi ça me plaît beaucoup quand il y a du contentieux en tant que juriste, mais ce qui n'est pas forcément la voie que je crois ni l'administration des bibliothèques, ni peut-être même les bibliothécaires sur le terrain ont envie d'emprunter.
Pour conclure, Noé Wagner, quel est votre regard donc sur cette loi Robert, même si vous avez en partie répondu à cette question, les principes qu'elle sanctuarise, et je pense notamment au pluralisme des collections, ou à la responsabilité des bibliothécaires hein, autour de la politique documentaire. Et enfin, deuxième partie de cette question, quels seraient les prolongements à imaginer? Je pense à la gratuité, par exemple, qui est moi un cheval de bataille qui m'est particulièrement cher, ou à éviter d'ailleurs, hein, la question de, par exemple, de les questions de genre dans les collections, dont on sait qu'elles ont été, elles ont failli faire partie du texte final. Quels seraient donc les prolongements, voilà, à imaginer, et puis peut-être ceux qu'il faudrait absolument éviter, pris par l'émotion du moment ou les grandes tensions du moment, dans d'éventuels prolongements, parce que on parle déjà de prolongements à venir finalement de cette loi Robert, qui serait un premier acte.
D'accord, ouais, intéressant cette question de c'est un premier acte, donc il y a d'autres choses à développer derrière, y compris sur le plan législatif. Bon. Cette loi, je crois qu'il faut pas perdre de vue le fait qu'elle était gouvernée par un certain esprit, c'est-à-dire c'est une loi pragmatique, c'est une loi consensuelle, c'est aussi une loi sans grande imagination, mais qui a pour vertu d'être sans grande imagination, c'est pour ça qu'elle est consensuelle, pragmatique, etc. C'est-à-dire, elle est sans grande imagination, elle ne vient pas traiter les problèmes qui pourraient être les plus sensibles, mais elle accomplit pleinement son office, elle ne chamboulera rien, mais en même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, je suis pas sûr que la profession demande un grand chamboulement. En tout cas, moi, j'ai pas vu émerger de propositions radicalement différentes de textes de loi sur les bibliothèques émanant de la profession. Donc, c'est une loi minimale qui avait pour fonction d'être relativement minimale, qui combine quelques grands principes et des petites rustines. Il y a des petites rustines qui sont très utiles. Hein. Je reviens sur l'exemple que j'avais tout à l'heure. La cession d'ouvrages de collection courante qu'on veut céder, bon bah ça c'est quand même simplifier le processus. La clarification sur le caractère obligatoire des missions de bibliothèque départementale, bon finalement on a réussi à vivre des années sans que ce soit précis cette chose-là, mais on voyait bien que dès que les choses se tendaient, on réalisait qu'on était assis sur du vent quoi. Donc c'est des choses qui enlèvent des difficultés pour l'avenir et de ce point de vue le dispositif est quand même très intéressant. Est très intéressant, même si, encore une fois, cette loi a un titre qui dépasse sa réalité. C'est-à-dire, ce n'est pas une loi sur les bibliothèques, c'est une loi, encore une fois, courte, un peu inespérée, consensuelle, mais qui ne traite que de quelques problèmes, et essentiellement des problèmes de bibliothèques territoriales. Et ça soulève aussi la question de savoir dans quelle mesure est-ce que les bibliothèques universitaires n'auraient pas gagné aussi à être traitées d'une manière ou d'une autre, tout en sachant que c'est la vraie Arlésienne. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable aujourd'hui, et en premier, est-ce que la profession est capable de penser à un texte qui soit transversal à l'ensemble des bibliothèques de service public, y compris bibliothèques universitaires? Pareil, moi, je suis pas sûr d'avoir vraiment vu, j'ai vu des discours intéressants sur le sujet, et éventuellement des propositions, mais en réalité, lorsqu'il s'agit de transformer sur le plan logistique un grand texte sur les bibliothèques de service public, j'ai pas vraiment vu cette proposition-là émerger. Alors après, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui pourrait être prolongé? Bon, tout ce qui relève de l'organisation institutionnelle, c'est ce que je disais tout à l'heure, reste minimaliste. Et pourtant, c'est des questions qui sont centrales. La question de la petite constitution des bibliothèques, au sens juridique du terme, c'est-à-dire la constitution des bibliothèques avec un grand C, ce qui organise les rapports et les relations entre la multiplicité des acteurs en matière de bibliothèques, ça, c'est une question qui n'est pas vraiment traitée. Elle n'est pas faite, cette question-là, ce qui concerne les structures, ce qui concerne la gouvernance, ce qui concerne le statut des personnels aussi, hein. On renvoie, alors là, vraiment de manière presque excessivement minimaliste à des conditions de formation pour les intervenants dans la bibliothèque, mais c'est vrai que là, ça relève, ouais, de l'intention sans lendemain, parce que on ne renvoie même pas à un décret en Conseil d'État pour venir préciser quelles sont les conditions minimales de formation qu'on exige des intervenants dans la bibliothèque. Mais bon, tout ça, pourtant, il y a des sujets lourds, hein, autour de qu'est-ce qu'on peut externaliser dans une bibliothèque, qu'est-ce qu'on doit laisser en interne, qu'est-ce qui passe par la voie du fonctionnaire titulaire, qu'est-ce qui passe par la voie du contractuel. Il y a plein de choses, alors qui sont évidemment des questions qui dépassent très largement le secteur des bibliothèques. La loi sur les bibliothèques n'est pas... Mais bon, rien n'empêche, dans une loi sur les bibliothèques, de traiter spécifiquement de ces questions-là en disant on va créer une exception bibliothèque, si j'ose dire, avec des règles spécifiques autour de la nécessité d'avoir un statut particulier pour les intervenants dans les bibliothèques. Bon, tout ce qui concerne la participation, tout ce qui concerne, par exemple, ce vieux truc qui était... le Conseil supérieur des bibliothèques, enfin comme on a dans d'autres domaines, toutes ces choses-là ne sont pas dedans. Parce qu'on a choisi de ne pas les mettre dedans, il y a sans doute de très bonnes raisons, ça c'est une autre question, peut-être de ne pas traiter, et surtout de ne pas traiter à l'occasion de ce débat parlementaire-là pour ne pas faire couler tout le reste de ces questions-là, mais ça ne veut pas pour autant dire que ce sont des non-sujets. Ce sont des sujets qui restent à aborder, qui restent à traiter, et il y a encore beaucoup à faire sur vraiment au sens propre, je ne sais pas si cette expression est très compréhensible de non-juriste, de voir pas qui est un droit constitutionnel des bibliothèques, au sens d'un droit qui organise la constitution et l'organisation générale des bibliothèques. Ça, c'est pas le point de vue de la loi du 21 décembre 2021, et par contre, c'est inévitablement un sujet qu'il faudra traiter, retraiter un jour à venir.
Bien, Noé Wagner, je vous remercie vraiment chaleureusement et j'invite tous les auditeurs, tous les bibliothécaires à faire toute séance tenante l'acquisition de cet ouvrage, Le droit des bibliothèques, vraiment remarquable, hein, d'érudition et par tous les sujets qu'il aborde.
Dont on espère produire une seconde édition bientôt.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Effectivement, ça semble être indiqué à présent. Sans doute une seconde édition sensiblement plus épaisse. Ce podcast a été réalisé avec donc la e-communauté culture et territoire du CNFPT. Merci encore, Noé Wagner, de nous avoir accordé votre temps et toutes vos connaissances. À bientôt sur Fréquence T, la web radio des territoriaux. Au revoir.
Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.